Aux printanières, chapitre 33. Actuellement, le chemin de fer parcourt en moins d'une heure la distance de Francfort à Wiesbaden. Mais à cette époque, il fallait 3 heures en voiture express. On changeait 5 fois de chevaux. Polozov sommeillait, puis dodelinait en tenant son cigare entre les dents, et parlait très peu. Il ne regarda pas une fois par la portière. Les points de vue ne l'intéressaient pas. Il déclara même que « la nature, c'est ma mort ». Sanine, de son côté, se taisait et restait indifférent à la beauté du paysage. Il était entièrement absorbé par ses pensées et ses souvenirs. Au relais, Polozov payait sans marchander les distances parcourues, regardait l'heure à sa montre et distribuait aux postillons des pourboires proportionnés à leurs ailes. À mi-chemin, il sortit du panier 2 oranges, choisit la meilleure, la garda pour lui et offrit l'autre à Sanine. Celui-ci, qui observait son compagnon de route, partit tout à coup d'un éclat de rire. « De quoi ris-tu ? » demanda Polozov en détachant soigneusement la peau de l'orange avec ses ongles courts et blancs. « De quoi je ris ? » s'écria Sanine. « Mais de notre voyage !» « Et pourquoi ?» demanda Polozov en faisant disparaître dans sa bouche tout un quartier d'oranges. « Mais c'est ce voyage qui me paraît singulier. Hier, je pensais à me trouver ici avec toi comme à me rencontrer avec l'empereur de la Chine. Et aujourd'hui, je suis en route avec toi pour vendre ma propriété à ta femme que je n'ai jamais vue. »« Tout est possible, » répondit Polozov. En avançant en âge, tu en verras bien d'autres. Par exemple, est-ce que tu te représentes ton ami Polozov sur un cheval d'ordonnance? Eh bien, cela m'est arrivé. Et en me voyant, le grand-duc Mikhaïl Pavlovitch a commandé « Au trot, faites aller au trot ce gros cornette !» Sanine se gratta l'oreille. « Je t'en prie, parle-moi un peu de ta femme. Quel est son caractère ? « J'ai besoin de le savoir. » Le grand-duc pouvait à son aise commander « au trot », continua Polozov avec ressentiment. « Mais moi, comment devais-je me tenir à cheval ? Aussi leur ai-je dit « Vous pouvez garder vos grades, vos épaulettes, moi je n'en veux plus. » « Ah, tu veux que je te parle de ma femme ? Eh bien, ma femme est un être humain comme tous les autres, seulement... Ne lui mets pas le doigt dans la bouche, elle n'aime pas cela. Mais avant tout, parle beaucoup avec elle de choses qui font rire. Raconte-lui tes amours, mais d'une façon amusante. Tu me comprends ? Comment, d'une façon amusante ? Mais oui, tu m'as dit que tu es amoureux, que tu as l'intention de te marier. Eh bien, raconte-lui toute l'affaire. Sanine se sentit blessée. « Mais que peux-tu trouver d'amusant dans mon mariage ?» Polozov se contenta de regarder Sanine dans les yeux pendant que le jus de l'orange coulait sur son menton. « C'est ta femme qui t'a demandé d'aller à Francfort pour faire ses emplettes ?» demanda Sanine après quelques moments de silence. « Oui, c'est elle-même. »« Quelles emplettes ? Mais des joujoux ?»« Des joujoux ?» Tu as des enfants ? À cette question, Polozov s'éloigna de Sanine. Qu'est-ce que tu dis là ? Pourquoi aurais-je des enfants ? Les joujoux, ce sont des colifichets, des articles de toilette. Tu t'y entends ? Je m'y entends. Mais tu m'as dit que tu ne te mêles jamais des affaires qui concernent ta femme. Je ne me mêle pas d'autre chose, rien que de sa toilette. « Cela me désennuie. Ma femme a bonne opinion de mon goût, puis je sais marchander. » Polozov commençait à égrener ses phrases. Il était déjà fatigué. « Et elle est très riche, ta femme ?»« Oui, elle est assez riche, mais tout pour elle. »« Il me semble pourtant que tu n'as pas à te plaindre. » « Mais aussi, je suis son mari. Il ne manquerait plus que cela, que je n'en profite pas. Je lui suis utile. Elle y trouve son profit. Je suis commode. » Polossov s'essuya le visage avec son foulard et se mit à souffler péniblement, comme pour dire « Épargne-moi donc, ne me fais plus dire un mot, tu vois comme cela me fatigue de parler. » Sanine le laissa tranquille et s'enfonça de nouveau dans ses réflexions. À Wiesbaden, l'hôtel devant lequel s'arrêta la voiture ressemblait plutôt à un palais. Aussitôt des sonnettes tintèrent dans les couloirs et il y eut tout un remue-ménage parmi le personnel. Des valets en habit apparurent à l'entrée. Le portier brodé d'or sur toutes les coutures, d'un coup de main ouvrit la portière. Polossov descendit de voiture en triomphateur et commença l'ascension de l'escalier embaumé et couvert de tapis. Un homme, très correctement vêtu de noir, à la physionomie russe, courut au-devant de lui. C'était son valet de chambre. Polossov lui annonça que dorénavant il le prendrait partout avec lui, parce que la veille, à Francfort, on l'avait laissé passer la nuit sans eau chaude. Le visage du valet exprima l'horreur. Puis il se baissa lentement et retira les galoches du baril. « Est-ce que Maria Nikolaevna est chez elle ?» demanda Polossov. « Madame est chez elle. Madame s'habille. Madame dîne chez la comtesse Lasunski. »« Ah, chez la comtesse. Écoute, il y a dans la voiture des effets. Prends-les toi-même et apporte-les ici. Et toi, Dmitri Pavlovitch, dit-il à Sanine, choisis-toi une chambre et viens me rejoindre dans 3/4 d'heure. Nous dînerons ensemble. » Polossov s'éloigna et Sanine demanda une chambre parmi les plus modestes. Quand il eut rajusté sa toilette et se fut un peu reposé, il entra dans le vaste appartement occupé par Son Altesse le Prince Polossov. Il trouva Son Altesse assis dans un fauteuil de velours écarlate au milieu d'un salon resplendissant. Le flegmatique ami de Sanine avait trouvé le temps de prendre un bain et de se revêtir d'une très riche robe de chambre de satin. Sa tête était ornée d'un fez couleur de fraise. Sanine s'approcha de lui et le contempla quelque temps. Polossov restait assis, immobile, comme une idole dans sa niche. Il ne tourna pas la tête du côté de Sanine, ne remua pas les paupières, ne proféra pas un son. C'était un spectacle vraiment majestueux. Après l'avoir admiré quelques instants, Sanine se disposait à parler pour rompre ce silence auguste, lorsque tout à coup la porte de la chambre voisine s'ouvrit et sur le seuil apparut une jeune et jolie femme, vêtue d'une robe de soie blanche ornée de dentelles noires, avec des diamants au poignet et autour du cou. C'était Maria Nikolaevna Polossov. Les cheveux roux, touffus, tombaient des deux côtés de la tête, en nattes toutes prêtes à être relevées. Chapitre 34. « Ah, pardon !» s'écria Marie Nikolaevna avec un sourire demi-confus, demi-moqueur. Elle releva d'une main le bout d'une de ses nattes et attacha sur Sanine le regard de ses grands yeux gris et clairs. « Je ne vous savais pas encore ici. » « Sanine Dmitri Pavlovitch, un ami d'enfance, » dit Polossov, sans bouger de sa place et en montrant Sanine du doigt. « Oui, je sais, tu m'as déjà parlé de lui. Je suis enchantée de faire votre connaissance. Mais je suis venue pour te demander un service, Hippolyte Sidorovitch. Ma femme de chambre est si maladroite aujourd'hui. » « Tu veux que je te donne un coup de main à ta coiffure ?»« Oui, oui, je t'en prie. Excusez-moi, » répéta Marie Nikolaevna avec le même sourire. Elle fit un signe de tête à Sanine, pirouetta sur elle-même et disparut dans l'autre chambre, en laissant l'impression rapide mais harmonieuse d'un cou exquis, d'épaules splendides et d'une taille admirable. Polossov se leva et, se balançant lourdement, suivit sa femme dans l'autre chambre. Sanine ne douta pas un instant que la jeune femme sut parfaitement qu'il se trouvait dans le salon du prince Polossov, et que cette petite comédie avait été jouée à son intention, pour montrer des cheveux qui valaient d'ailleurs la peine d'être vus. Sanine fut contente de l'apparition de la jolie dame. « Si elle a voulu m'éblouir par sa beauté, pensa-t-il, qui sait, peut-être se montrera-t-elle coulante pour l'achat de la propriété ?» Son âme était tellement remplie du souvenir de Gemma que toutes les autres femmes lui étaient indifférentes. C'est à peine s'il les voyait. Et cette fois, il se contenta de penser « Oui, on avait raison de me dire que cette dame est fort belle. » S'il ne s'était pas trouvé dans cet état exceptionnel, il se serait certainement exprimé autrement. Marie Nikolaevna, née Kolishkine, était une femme qu'on ne pouvait s'empêcher de remarquer. Ce n'est pas qu'elle fût une beauté incontestée. On distinguait nettement en elle les traces de son origine plébéienne. Le front était bas, le nez un peu charnu et légèrement retroussé. Elle ne pouvait pas se glorifier non plus de la finesse de sa peau, ni de l'élégance de ses mains et de ses pieds. Mais que signifiaient ces détails ? Celui qui la voyait ne restait pas en contemplation devant une beauté sacrée, comme disait le poète Pouchkine, mais devant le prestige d'un vigoureux et florissant corps de femme, russe et tzigane. Et il n'y avait pas moyen de ne pas tomber en arrêt devant elle. Mais l'image de Gemma protégeait Sanine, comme le triple bouclier que chante le poète. 10 minutes plus tard, Maria Nikolaevna apparut de nouveau avec son mari. Elle s'approcha de Sanine, et sa démarche était si séduisante que certains originaux, hélas que ces temps sont loin, devenaient follement épris de Maria Nikolaevna rien que pour sa démarche. Lorsque cette femme marche à ta rencontre, on dirait que le bonheur de ta vie entre par la même porte, disait un de ses adorateurs. Elle tendit la main à Sanine et lui dit de sa voix caressante et contenue « Vous ne vous retirerez pas avant mon retour, n'est-ce pas? Je rentrerai de bonne heure. » Sanine s'inclina respectueusement, tandis que Maria Nikolaevna disparaissait derrière la portière. Sur le seuil, elle tourna la tête en arrière et sourit, et de nouveau Sanine ressentit la même impression harmonieuse qu'il avait éprouvée un moment auparavant. Lorsque Maria Nikolaevna souriait, on voyait se creuser sur chacune de ses joues, non pas une, mais 3 petites fossettes, et ses yeux souriaient plus encore que ses lèvres, longues, empourprées et rayonnantes, avec 2 minuscules grains de beauté à gauche. Polossov se traîna jusqu'à son fauteuil. Il ne disait mot, comme auparavant. Mais un sourire moqueur, étrange, de temps en temps plissait ses joues bouffies, incolores et déjà ridées. Il avait l'air vieillot, bien qu'il n'eût que 3 ans de plus que Sanine. Le dîner que Polossov servit à Sanine aurait pu satisfaire le gourmet le plus consommé. Mais Sanine le trouva sans faim et insupportable. Polossov mangeait lentement, avec sentiment, conviction et lenteur, se penchant avec attention sur son assiette et flairant presque chaque morceau. D'abord, il se rinçait la bouche avec du vin, et après seulement, il l'avalait en faisant claquer ses lèvres. Quand on servit le rôti, sa langue se délia subitement. Mais sur quel sujet ? Sur des moutons dont il voulait faire venir tout un troupeau dans sa propriété. Et il en parlait avec amour, accumulant les détails et n'employant que les diminutifs affectueux. Après avoir bu une tasse de café noir en ébullition, il avait à plusieurs reprises pendant le dîner rappelé au garçon, d'une voix courroucée et larmoyante, que la veille on lui avait servi du café froid, froid comme la glace. Polossov, tout en mordillant entre ses dents jaunes et tordues un havane, s'endormit, selon son habitude et à la grande joie de Sanine. Le jeune homme se mit à arpenter le salon sur le tapis épais, rêvant à sa vie future avec Gemma et aux nouvelles qu'il pourrait lui porter le lendemain. Mais Polozov se réveilla plus tôt qu'à l'ordinaire. Son sommeil n'avait duré qu'une heure et demie. Et après avoir bu un verre d'eau de sels avec de la glace et avalé au moins 8 cuillerées de confiture, de la véritable confiture russe de Kiev que son valet lui présenta dans un bocal vert foncé et sans laquelle Polozov déclarait ne pouvoir vivre. Il leva ses yeux un peu boursouflés sur Sanine et lui demanda s'il serait disposé à faire avec lui une partie de Dourachki. Sanine consentit. Il craignait de voir Polozov reprendre ses explications sur les moutons et entrer dans des détails fastidieux. Le garçon apporta les cartes et la partie commença. Il va sans dire qu'il ne jouait pas pour de l'argent, mais uniquement pour passer le temps. Lorsque Marie Nikolaevna revint de son dîner chez la comtesse Lazunski, elle trouva les deux hommes à cette innocente occupation. En entrant dans le salon, elle aperçut les cartes et la table de jeu et partit d'un éclat de rire. Sanine se leva, mais elle lui dit « Non, continuez votre jeu, je vais changer de robe et je reviens. » Elle disparut de nouveau au milieu d'un froufrou de jupe et retira ses gants tout en marchant. Elle revint effectivement au bout d'un moment. Elle avait remplacé sa toilette de bal par une large blouse de soie lilas avec des manches ouvertes et flottantes. Une lourde cordelière entourait sa taille. Elle s'assit à côté de son mari et attendit le moment de la partie où il devint dourak, imbécile. Alors elle lui dit « Maintenant, petite crêpe, c'est assez. » À ce mot de « petite crêpe », Sanine la regarda tout étonnée et elle lui sourit gaiement, répondant au regard du jeune homme en le regardant en face et creusant toutes les fossettes de ses joues. « Assez !» dit-elle de nouveau à son mari. « Je vois que tu as envie de dormir. Baise la main et va dormir, et moi je resterai avec Monsieur Sanine pour causer un peu. »«
Je n'ai pas sommeil, » répondit Polozov en se levant lourdement de son fauteuil.
« Mais j'irai quand même me coucher, et je baiserai la main. » Elle lui tendit la main sans cesser de sourire et de regarder Sanine. Polozov regarda aussi son ami et partit sans prendre congé. « Maintenant, racontez-moi votre histoire, » dit vivement Maria Nikolaevna en posant ses deux coudes nus sur la table et en tapotant avec impatience ses ongles l'un contre l'autre. « On m'a dit que vous allez vous marier. Est-ce vrai ?» Quand elle eut posé cette question, Marie Nikolaevna inclina légèrement la tête de côté pour regarder plus fixement et plus profondément dans les yeux du jeune homme. Chapitre 35. Bien que Sanine ne fût pas un novice et qu'il eût déjà quelque expérience des hommes, la manière d'être délurée de Madame Polozov l'eût tout de même troublée s'il n'avait pas vu dans cette familiarité et ce sans-façon un heureux augure pour son entreprise. « Flattons les caprices de cette riche dame, » se dit-il. Et il répondit d'un ton aussi dégagé que l'était la question posée. « Oui, je me marie. »«
Vous épousez une étrangère ?»«
Une étrangère. »
« Vous venez de faire sa connaissance à Francfort ?»«
Oui, madame, à Francfort. » »«
Et peut-on savoir qui est cette jeune fille ?»«
Certainement. Elle est la fille d'un confiseur. »
Marie Nikolaevna ouvrit les yeux tout grands et arqua ses sourcils.
« Mais c'est charmant, » dit-elle d'une voix posée. « C'est délicieux. Et moi qui croyais qu'on ne peut plus trouver en ce monde des hommes comme vous. La fille d'un confiseur. »
« Je vois que cela vous étonne, » dit Sanine, non sans dignité. « Mais d'abord, je n'ai point de préjugés. »
« D'abord, cela ne m'étonne nullement, » s'écria Maria Nikolaevna en l'interrompant. « Des préjugés, je n'en ai pas non plus. Je suis moi-même la fille d'un moujik. » « Eh bien, non, vous ne m'avez pas épatée. Ce qui m'étonne et me réjouit, c'est de voir un homme qui n'a pas peur d'aimer.
Vous l'aimez ?
Oui, madame.
Elle est très belle ? Cette dernière question agaça quelque peu Sanine, mais il n'y avait plus moyen de reculer.
Vous comprenez vous-même, Maria Nikolaevna, dit-il, que tout homme trouve le visage de l'aimé plus beau que tous les autres, mais ma fiancée est une véritable beauté.
Vraiment ? De quel genre ? Du genre italien classique ?
Oui, elle a des traits parfaitement réguliers.
Vous n'avez pas son portrait ?
Non.
À cette époque, la photographie n'était pas connue et les daguerréotypes commençaient seulement à se répandre.
Quel est son nom ?
Gemma.
Et le vôtre ?
Dimitri.
Et votre patronymique ?
Pavlovitch.
Savez-vous ? Dit Maria Nikolaevna, toujours de la même voix traînante. Vous me plaisez beaucoup, Dmitri Pavlovitch. Vous devez être un brave garçon. Donnez-moi votre main. Soyons amis.
Elle serra fortement la main du jeune homme de ses beaux et vigoureux doigts blancs. Elle avait la main un peu plus petite que celle de Sanine, et plus chaude, plus douce, plus souple et vivante.
« Mais savez-vous quelle idée me vient ?»«
Voyons cette idée. »«
Vous ne vous fâcherez pas, non ? Vous dites que vous êtes fiancée. Il n'y avait pas moyen de faire autrement ?»
Sanine fronça les sourcils. « Je ne vous comprends pas, Maria Nikolaevna. » Maria Nikolaevna eut un petit rire, et secouant la tête, elle rejeta en arrière les cheveux qui tombaient sur ses joues.
« Vraiment, il est délicieux, » dit-elle, rêveuse, distraite. « Un chevalier. Allez après cela croire ceux qui affirment qu'il n'y a plus d'idéalistes. »
Maria Nikolaevna parlait tout le temps en russe, avec un accent très pur, l'accent du peuple de Moscou et non celui de la noblesse.
« Vous avez sans doute été élevée à la maison. » « Dans une famille de l'ancien type où l'on craint Dieu ?» demanda-t-elle. Et elle ajouta aussitôt, « Vous êtes de quel gouvernement ?»«
Du gouvernement de Toula. »
« Nous sommes, vous et moi, de la même auge, mon père. »« Mais savez-vous qui était mon père ?»«
Oui, je le sais. »«
Il est né à Toula. » »«
Assez là-dessus. Maintenant, passons aux affaires. »
Comment aux affaires ? Que voulez-vous dire ?
Maria Nikolaevna cligna des yeux.
Quand elle clignait des yeux, son regard prenait une expression caressante et légèrement moqueuse. Quand elle les ouvrait tout grands, leur lueur claire, presque froide, n'annonçait rien de bon, presque une menace. Ses yeux étaient embellis surtout par ses sourcils bien fournis, un peu proéminents, de vrais sourcils de martre.
« Mais dans quelle intention êtes-vous venu ici ? Vous désirez me vendre votre propriété. Vous avez besoin d'argent pour votre mariage, n'est-ce pas ?»«
Oui, j'ai besoin d'argent. »«
De beaucoup d'argent ?»«
Pour le moment, je me contenterai de quelques milliers de francs. Hippolyte Sidorovitch connaît ma propriété. Vous pouvez le consulter. Je ne demande pas un prix élevé. »
Maria Nikolaevna agita la tête de droite à gauche.
Premièrement, dit-elle en scandant chaque mot et en frappant du bout des doigts le parement du surtout de Sanine. Je n'ai pas l'habitude de consulter mon mari, si ce n'est en ce qui concerne ma toilette. Sur ce chapitre, il est fort. Secondement, pourquoi ne voulez-vous pas demander un prix élevé ? Je ne veux pas profiter de ce que vous êtes amoureux et prêt à tous les sacrifices. Je n'accepterai pas de vous un rabais.
Comment ?
Au lieu de stimuler, comment dirais-je cela, d'encourager de mon mieux de nobles sentiments, je vous exploiterai ? Ce n'est pas dans mes habitudes, bien que souvent je n'épargne pas les gens. Mais ce n'est pas ainsi que je m'y prends.
Sanine se demandait si son interlocutrice plaisantait ou si elle parlait sérieusement. Il se dit en lui-même « Avec toi, il faut être bien sur ses gardes. »
Un valet apporta un samovar, des tasses à thé, de la crème et des biscuits sur un grand plateau. Il posa ses choses sur la table entre Sanine et Madame Polossov et se retira. La jeune femme servit à Sanine une tasse de thé. « Vous ne m'en voudrez pas ? » demanda-t-elle en mettant du bout des doigts le sucre dans la tasse du jeune homme, bien que les pinces fussent dans le sucrier. Sanine se récria « Madame, d'une si belle main !» Il n'acheva pas sa phrase et faillit s'étouffer en avalant la première gorgée de thé. Madame Polossov le regardait attentivement de son regard clair. « J'ai dit, reprit Sanine, que je ne demanderai pas un prix élevé pour ma propriété, parce que vous sachant à l'étranger, je ne suis pas en droit de supposer que vous ayez avec vous beaucoup d'argent disponible. » Puis je sais que ces conditions de vente ne sont pas normales. Je dois tenir compte de toutes ces considérations. » Sanine hésitait, s'embrouillait dans ses phrases, tandis que Maria Nikolaevna, tranquillement renversée contre le dossier de son fauteuil, le regardait toujours du même regard clair et attentif. Il se tut enfin. « Continuez, continuez !» dit-elle d'un ton encourageant. « Je vous écoute. J'ai du plaisir à vous écouter. Parlez. » Sanine se mit alors à décrire sa propriété, dit combien elle mesurait de desiatines, comment elle était située et quel profit on en pouvait tirer. Il ne manqua pas de mentionner le fait que la maison se trouvait dans un site pittoresque. Maria Nikolaevna ne détachait pas de lui son regard, toujours plus clair et plus fixe, et ses lèvres remuaient imperceptiblement sans sourire. Elle les mordillait. Sanine se sentit mal à l'aise. Il se tut de nouveau. « Dmitri Pavlovitch, » commença Maria Nikolaevna, puis elle s'interrompit. « Dmitri Pavlovitch, » reprit-elle au bout d'un instant, « savez-vous, je suis sûre que l'acquisition de votre propriété sera pour moi une affaire avantageuse et que nous nous entendrons sur le prix. Mais il faut me donner un peu de temps, 2 jours pour prendre une décision. Vous pouvez supporter de rester 2 jours séparés de votre fiancé. Je ne vous retiendrai pas un moment de plus, contre votre gré. Je vous en donne ma parole. Mais si vous avez besoin immédiatement de 5 ou 6 000 francs, « je vous les avancerai avec plaisir. » Sanine se leva. « Je vous remercie d'abord pour votre aimable proposition de me rendre service, à moi qui suis presque un inconnu pour vous. Mais puisque vous y tenez absolument, je préfère attendre votre décision au sujet de ma propriété. Je peux rester ici encore 2 jours. »« Oui, Dmitri Pavlovitch, je le désire. Et cela vous sera pénible ?» « Très pénible, avouez-le-moi. Mais j'aime ma fiancée, et il ne m'est pas indifférent d'être séparé d'elle. »« Ah, vous êtes vraiment un homme d'or !» s'écria Maria Nikolaevna avec un soupir. « Je vous promets de ne pas traîner l'affaire en longueur. Vous vous retirez déjà ?»« Il est très tard, » remarqua Sanine. « Et vous avez besoin de repos après le voyage ?» Et après votre partie de Dourajki avec mon mari. Dites-moi, vous êtes un grand ami de mon mari? Nous avons été élevés dans le même pensionnat. Et déjà alors, il était comme cela? Comment comme cela? Demanda Sanine. Maria Nikolaevna partit d'un grand éclat de rire. Elle rit jusqu'à en devenir toute rouge. Puis elle porta son mouchoir à ses lèvres, se leva, et se balançant comme si elle était fatiguée, elle s'approcha de Sanine et lui tendit la main. Il salua et se dirigea vers la porte. « Tâchez demain de vous présenter de très bonne heure. Vous m'entendez ?» lui cria-t-elle comme il sortait du salon. Il se retourna et vit que Maria Nikolaevna s'était renversée de nouveau dans le fauteuil, les 2 mains jointes derrière sa tête. Les larges manches de sa blouse s'étaient ouvertes jusqu'aux épaules.
et il était impossible de ne pas reconnaître que cette pose et que toute la personne étaient d'une beauté ensorcelante.
Chapitre 36. Minuit avait sonné depuis longtemps, et la lampe brûlait encore dans la chambre de Sanine. Il était assis devant sa table et écrivait à Sadjem. Il lui raconta tout ce qui s'était passé, décrivit les Polossov, le mari et la femme, mais en somme parla davantage de ses sentiments et finit par donner rendez-vous à sa fiancée dans 3 jours, accompagné de 3 points d'exclamation. Le lendemain matin de bonne heure, il porta la lettre à la poste et alla faire un tour dans le jardin du Kurhaus où il y avait déjà de la musique. Il n'y avait encore que peu de monde. Sanine resta un moment devant le pavillon où se trouvait l'orchestre, écouta un pot-pourri de Robert le Diable, et après avoir pris du café, suivit une allée écartée et s'assit sur un banc, tout à ses pensées. Le manche d'une ombrelle le frappa tout à coup assez fort sur l'épaule. Il tressaillit. Vêtu d'une robe légère gris-vert, avec un chapeau de tulle blanc et des gants de suède, fraîche et rose comme une matinée d'été, mais ayant encore la langueur d'un sommeil paisible dans ses mouvements et dans ses regards, Maria Nikolaevna se tenait devant lui. « Bonjour, dit-elle, j'ai envoyé à votre recherche, mais vous étiez déjà parti. Je viens de boire mon second verre. Vous savez, on me force ici de boire de l'eau. Dieu sait pourquoi. Est-ce que je suis malade, moi? Et après avoir bu de l'eau, je dois me promener pendant 1 heure entière. Voulez-vous être mon cavalier? Et ensuite nous prendrons le café. »
J'ai déjà pris le café, dit-il en se levant, mais je serai heureux de me promener avec vous.
Alors donnez-moi le bras.
Ne craignez rien. Votre fiancée n'est pas ici. Elle ne vous verra pas.
Sanine eut un sourire forcé. Chaque fois que Madame Polossov parlait de Gemma, il éprouvait une sensation pénible. Mais il obéit et s'inclina avec empressement. Le bras de Maria Nikolaevna entoura lentement et mollement le bras du jeune homme, glissa contre lui et l'enlaça presque. « Allons par ici, lui dit-elle, en rejetant sur son épaule l'ombrelle ouverte. « Je suis dans ce parc comme chez moi. Je vais vous montrer les plus jolis endroits. »
« Et savez-vous ? »
Elle employait fréquemment cette expression. « Pour le moment, nous ne parlerons pas de votre propriété. Après le déjeuner, nous examinerons l'affaire à loisir. Maintenant, vous devez me parler de vous, afin que je sache à qui j'ai affaire. Après, si cela vous intéresse, je vous raconterai mon histoire. Voulez-vous ? »
« Mais, Maria Nikolaevna, il n'y a rien à raconter dans ma vie. »
Permettez, permettez, vous ne m'avez pas bien comprise. Je n'ai pas l'intention de faire la coquette avec vous. »
Elle haussa les épaules.
Il a une fiancée belle comme une statue antique, et je perdrai mon temps à faire la coquette avec lui.
Mais vous détenez la marchandise, et je suis acquéreur. Je veux savoir à quoi ressemble cette marchandise. C'est à vous de me la faire voir. Je veux savoir non seulement ce que j'achète, mais à qui je l'achète. En affaires, c'était une règle pour mon père.
Eh bien, commencez. Vous pouvez passer l'enfance. Commencez votre récit du jour où vous êtes débarqué à l'étranger. Où avez-vous été avant de venir en Allemagne?
Mais ralentissez donc le pas, rien ne nous presse.
Je suis venu d'Italie, où j'ai passé plusieurs mois.
Vous avez donc un faible pour tout ce qui est italien. La seule chose qui m'étonne, c'est que vous n'ayez pas trouvé votre fiancé là-bas. Vous aimez les arts, les tableaux, ou peut-être préférez-vous la musique?
J'aime les arts, j'aime tout ce qui est beau.
La musique aussi?
La musique aussi.
Et moi, je ne l'aime pas du tout. Je n'aime que les chansons russes.
Et encore au village, au printemps, avec des danses.
Vous savez ce que j'entends.
les moujiques en chemise rouge, dans les prairies d'herbes tendres. Délicieux.
Parlez donc.
Tout en marchant, Maria Nikolaevna regardait Sanine avec persistance. Elle était de taille élevée et son visage se trouvait presque au niveau de celui du jeune homme. Il se mit à raconter ses faits et gestes, d'abord par devoir, gauchement, mais peu à peu il s'anima et parla avec volubilité. Maria Nikolaevna savait écouter, puis elle paraissait si sincère qu'elle obligeait involontairement les autres à la même sincérité. Elle possédait ce terrible don de la familiarité dont parle le cardinal de Retz. Sanine raconta ses voyages, sa vie à Saint-Pétersbourg et sa jeunesse. Si Maria Nikolaevna eût été une grande dame avec des manières raffinées, il ne se serait pas laissé aller à tant d'intimité. Mais elle s'appelait elle-même un bon garçon qui n'aime pas les manières, et marchait à côté du jeune homme d'une allure féline, s'appuyant un peu sur le bras de son compagnon et le regardant dans les yeux. Ce bon garçon marchait à côté de Sanine sous la forme d'un jeune être féminin qui respirait cette séduction enivrante et alanguissante, calme et dévorante, qu'exerce sur les faibles hommes certaines natures slaves, qui ne sont pas de race pure, mais qui ont subi un fort croisement. Cette promenade dans le parc et cette conversation durèrent une bonne heure. Le couple ne s'arrêta pas une seule fois, marchant toujours en avant, dans les avenues sans fond du parc. Ils gravissaient la colline et admiraient la vue. Ils descendaient dans les vallons, disparaissait dans l'ombre impénétrable, en restant toujours bras dessus, bras dessous. Par moments, Sanine s'en voulait. Il ne s'était jamais promené si longuement avec sa sœur Gemma, et décidément, cette dame l'accaparait. « N'êtes-vous pas fatiguée ?» lui avait-il demandé plusieurs fois. « Je ne suis jamais fatiguée !» avait-elle répondu. Il leur arrivait de rencontrer des promeneurs. Presque tous saluaient Madame Polossov, les uns respectueusement et d'autres presque servilement. À l'un de ces derniers, un très beau brun, mis en vrai dandy, elle cria de loin avec le plus pur accent parisien « Comte, vous savez, il ne faut pas venir me voir, ni aujourd'hui ni demain. » Le comte, sans mot dire, leva son chapeau et s'inclina profondément. « Qui est-ce, ce jeune homme ?» demanda Sanine, possédée comme tous les Russes du démon de la curiosité. « Qui c'est ? Un petit Français. Il n'en manque pas ici. Il me fait aussi la cour. Mais il est temps de prendre le café. Rentrons. Je suis sûre que vous avez déjà faim. Mon époux a sans doute décollé ses yeux. » Et pouf ! Décollé ses yeux, se dit Sanine à lui-même. Et avec cela, elle a le plus pur accent parisien. Quelle étrange créature! Maria Nikolaevna ne s'était pas trompée. Quand ils rentrèrent à l'hôtel, ils trouvèrent son époux ou sa petite crêpe assis, son fez sur la tête, devant la table mise. « Je suis déjà là d'attendre, » dit-il avec aigreur. « J'étais sur le point de prendre le café sans toi. » « Bon, bon !» s'écria gaiement Maria Nikolaevna. « Tu t'es fâchée ? Cela te fera du bien. Sans cela, tu serais complètement figée. Je t'amène un convive. Sonne vite pour le café. Et maintenant, prenons du café. Le meilleur café qu'il y ait en ce monde, dans des tasses de Saxe, sur une nappe blanche comme la neige. » Elle enleva son chapeau, ses gants, et se mit à battre des mains. Polossov la regarda sous les sourcils. « Qu'est-ce qui vous met en gaieté aujourd'hui, Maria Nikolaevna ? » demanda-t-il à demi-voix. « Cela ne vous regarde pas, Hippolyte Sidorovitch. Sonne ! Asseyez-vous, monsieur Sanine, et prenez du café pour la seconde fois ce matin. Ah, que j'aime à commander ! C'est mon plus grand plaisir. » « Quand on vous obéit !» marmotta de nouveau Polossov. « Naturellement, quand on m'obéit. C'est pourquoi je suis si heureuse avec toi. N'est-ce pas, ma petite crêpe ? Et voici le café. »
Sur le vaste plateau qu'apporta le garçon se trouvait le programme du spectacle du soir. Maria Nikolaevna s'en empara aussitôt.
« Un drame ! » dit-elle avec colère. « Un drame allemand ! En tout cas, cela vaut encore mieux qu'une comédie allemande. Retenez-moi une loge, une baignoire. Non, je préfère la Fremdenloge,
la loge des étrangers.
Vous entendez, garçon ? La Fremdenloge. »
Mais si la Fremdenloge est déjà retenue par son Excellence, le Stade Director,
vous donnerez à son Excellence dit à l'heure et la loge m'appartiendra. Vous entendez ?
Le garçon baissa tristement la tête d'un air soumis.
« Dmitri Pavlovitch, vous m'accompagnerez au théâtre ?
Les acteurs allemands sont détestables, mais vous m'accompagnerez.
Oui ? Oui ? Que vous êtes aimable. Et toi, ma petite crêpe, tu ne viendras pas ?»«
Comme tu voudras, »
répondit Polossov du fond de sa tasse qu'il tenait entre ses lèvres.
« Sais-tu ? Reste à la maison. Tu dors toujours au théâtre et tu comprends mal l'allemand. Voici ce que tu feras. Tu écriras au gérant pour lui donner une réponse au sujet du moulin, puis au sujet de la farine des moujiques. Écris-lui que je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas.
Voilà de quoi t'occuper toute la soirée.
« Bon, ce sera fait, » répondit Polossov. « Tu es un brave garçon. » Et maintenant, puisque j'ai parlé de régisseur, abordons la question principale. Oui, dis au garçon d'emporter tout cela. Maintenant, exposez-nous votre affaire, continua-t-elle s'adressant à Sanine. Vous nous direz quel prix vous demandez et quels arts vous désirez. Enfin, pensa Sanine, nous allons aborder la question.
Vous m'avez déjà parlé, reprit Madame Polossov, vous m'avez admirablement décrit votre jardin. Mais petite crêpe n'était pas là. Il faut qu'il entende aussi quelque chose. Je suis heureuse de penser qu'il est en mon pouvoir de faciliter votre mariage. Puis je vous ai promis de m'occuper de votre affaire après le déjeuner, et je tiens toujours mes promesses. N'est-ce pas, mon ami ?
Polossov, de la paume de ses mains, se frotta le visage.
« C'est la vérité même. Vous ne trompez jamais personne. »«
Jamais. Et je ne tromperai jamais personne. »«
Eh bien, monsieur Sanine, défendez votre cause, comme on dit devant les tribunaux. »
Chapitre 37. Sanine défendit sa cause, c'est-à-dire que pour la seconde fois, il se mit à décrire sa propriété, mais sans faire allusion aux beautés de la nature. De temps en temps, il en appelait à Polossov, qui devait confirmer les faits et les chiffres. Mais Polossov se contentait de marmotter en branlant la tête. Approuvait-il ? Désapprouvait-il ? Bien habile eût été celui qui aurait pu le dire. D'ailleurs, Maria Nikolaevna n'avait pas besoin de son concours. Elle fit preuve de qualités administratives et économiques surprenantes. Tous les détails de l'administration d'une propriété lui étaient familiers. Elle s'enquérait de tout, entrait dans les plus minimes détails, mettait les points sur les i. Cet examen dura pourtant une heure et demie. Sanine ressentit tous les tourments d'un accusé assis sur le banc étroit, devant un juge sévère et pénétrant.
« Mais c'est un interrogatoire, » disait-il douloureusement.
Maria Nikolaevna ne cessait de sourire, comme pour montrer qu'elle badinait, mais Sanine n'en souffrait pas moins. Lorsqu'il devint évident au cours de l'interrogatoire que le jeune homme ne distinguait pas assez clairement la signification des mots « nouveau partage » et « le labour », Sanine sentit la sueur humecter son front.
« Bien, c'est bien, » dit Maria Nikolaevna. « Je connais maintenant votre propriété comme vous la connaissez vous-même. Combien me demandez-vous par âme ? À cette époque, on vendait en Russie les propriétés à temps par tête de serre attachée à la propriété.
Mais je suppose pas moins de 500 roubles,
dit Sanine avec effort.
Oh, Pantaléone, Pantaléone, pourquoi n'étais-tu pas là pour lui crier encore « Barbarie »
Maria Nikolaevna leva les yeux au ciel comme si elle faisait un calcul.
« Bien, dit-elle, cela me semble raisonnable, mais je vous ai demandé 2 jours de réflexion, et vous devez attendre jusqu'à demain. Je crois que nous nous entendrons. Et alors vous me direz combien vous désirez pour les arts. »
Et maintenant, basta così, ajouta-t-elle en voyant que Sanine se disposait à lui répondre.
Nous nous sommes assez occupés comme ça du vil métal. À demain les affaires.
Savez-vous, je vous rends votre liberté.
Madame Polossov consulta la petite montre émaillée qu'elle tenait dans sa ceinture.
Je vous laisse votre liberté jusqu'à 3 heures. Vous avez besoin d'un peu de repos. Allez jouer à la roulette.
Je ne joue à aucun jeu de hasard.
Vraiment? Mais vous êtes la perfection même.
Au reste, je ne joue pas non plus. C'est bête de jeter son argent au vent, de perdre sûrement.
Entrez pourtant dans la salle, rien que pour regarder les têtes.
Il y en a de très drôles.
Il y a une vieille dame qui porte une ferronnière et qui a des moustaches.
L'ensemble est délicieux.
Il y a aussi un prince russe. Il est beau dans son genre. Une figure majestueuse, le nez recourbé comme un bec d'aigle, et quand il risque un thaler, il fait le signe de la croix sous son gilet.
Enfin, lisez les journaux, promenez-vous, faites ce que bon vous semble.
Seulement, n'oubliez pas qu'à 3 heures, je vous attends. De pied ferme, nous dînerons de bonne heure. Ces ridicules Allemands commencent le spectacle à 6h30.
Madame Polossov tendit la main à Sanine.
« Sans rancune, n'est-ce pas ?»«
Mais, Maria Nikolaevna, pourquoi vous en voudrais-je »«
Mais parce que je vous ai tourmentée. Et ce n'est pas fini, vous verrez ce qui vous attend. »
Maria Nikolaevna cligna des yeux, et toutes ses petites faussaires éclatèrent sur ses joues devenues rosées.
« Au revoir !»
Sanine salua et sortit du salon. Un rire bruyant éclata derrière lui, et la glace devant laquelle il passa refléta la scène suivante. Maria Nikolaevna avait enfoncé le fez de son mari jusqu'au nez, et Polossov agitait désespérément ses 2 bras pour se dégager les yeux.
Chapitre 38. Oh, quel profond soupir de joie poussa Sanine dès qu'il se retrouva dans sa chambre. En effet, Maria Nikolaevna avait dit vrai. Il avait besoin de repos, besoin de se reposer des nouvelles relations, des rencontres, des conversations, de tout le brouhaha qui s'était glissé dans sa tête et dans son âme, de ce rapprochement imprévu qu'il n'avait pas souhaité avec une femme qui était pour lui une étrangère. Et il lui avait fallu subir cette épreuve le lendemain du jour où il avait appris que Gemma l'aimait et où elle était devenue sa fiancée. N'était-ce pas un sacrilège? Mentalement, il demanda 1000 fois pardon à sa pure, à son immaculée tourterelle, bien qu'il ne comprît pas de quoi il se sentait coupable. Il baisa encore et encore la petite croix que Gemma lui avait donnée. S'il n'avait pas eu l'espoir de boucler promptement l'affaire qu'il avait amenée à Wiesbaden, il se serait enfui de là, au galop, pour retourner à son cher Francfort, dans cette maison aimée qu'il regardait déjà comme un peu sienne, au pied de Gemma. Mais il n'y avait pas de remède à son mal. Il fallait boire le calice jusqu'au fond, s'habiller, aller dîner, et de là au théâtre. «
Pourvu, se disait-il, qu'elle me laisse partir demain !»
Il y avait encore une chose qui le troublait et le mettait en colère. Il pensait, sans doute avec amour, avec attendrissement, avec extase, avec reconnaissance, à Gemma, à la vie qu'ils mèneraient à eux deux, au bonheur qu'il attendait dans l'avenir,
Et pourtant, cette femme étrange, cette Madame Polossov, était sans cesse devant ses yeux. Un crampon, s'avouait-il avec colère. Et il ne pouvait pas se débarrasser de l'image de Maria Nikolaevna, s'empêcher d'entendre sa voix, chasser le souvenir de ses paroles. Il ne pouvait se délivrer du parfum particulier, fin, frais, si pénétrant, comme le parfum d'un lys jaune qu'exhalaient les vêtements de Madame Polossov. C'était évident, cette femme se moquait de lui. Elle tâchait de s'emparer de lui de mille façons. Dans quelle intention? Que lui voulait-elle? Était-ce simplement le caprice d'une femme riche, gâtée et sans scrupules? Et le mari, quel être? Quelles sont donc ses relations avec sa femme? Pourquoi Sanine ne parvenait-il pas à refouler toutes ces questions qui assiégeaient sa pauvre tête? En réalité, ne pouvait-il penser à autre chose qu'à monsieur et madame Polossov? Pourquoi lui était-il impossible de chasser cette image qui le hantait sans cesse, même quand toute son âme se tournait vers une autre image, lumineuse et claire comme le jour? Comment le visage de cette femme ose-t-il venir s'interposer entre lui et les traits divins de l'aimé? Non seulement ce visage s'interpose, mais il lui sourit effrontément. Ses yeux gris, ses yeux d'oiseau de proie, ses fossettes dans les joues, ses tresses serpentines, est-il possible que tout cela l'enlace et qu'il n'ait plus la force de le repousser loin de lui? Oh non, c'est insensé! Demain tout cela aura disparu sans même laisser une trace. Cependant, le laissera-t-elle partir demain? Oui. Sanine se posait toutes ces questions, et l'heure où il devait se rendre auprès de Marie Nikolaevna approchait. Il passa son habit, et après avoir fait un tour ou deux dans le parc, il se présenta chez M. Polossov. Il trouva dans le salon le secrétaire de l'ambassade russe. Un long allemand, très blond, avec un profil chevalin et l'arrêt derrière la tête. Mode alors toute nouvelle. Et, oh, miracle! Qui encore? Le baron von Daenhoff, l'officier avec lequel Sanine s'était battue 3 jours auparavant. Sanine ne s'attendait pas à le rencontrer chez Madame Polossov, et involontairement il se troubla tout en saluant l'officier. « Vous connaissez ce monsieur ?» demanda Marie Nikolaevna, à qui l'embarras de Sanine n'avait pas échappé. « Oui, j'ai déjà eu l'honneur, » répondit Daenhoff. Et se penchant vers Madame Polossov, il ajouta à demi-voix « C'est lui, votre compatriote. » « Ce russe !»«
Vraiment ?»
s'exclama la jeune femme à demi-voix. Puis elle menaça l'officier du doigt et commença aussitôt à lui faire ses adieux, ainsi qu'au long secrétaire d'ambassade. Ce diplomate était évidemment fou de Marie Nikolaevna, à tel point qu'il ouvrait la bouche d'admiration chaque fois qu'il la regardait. Daenhoff se retira aussitôt avec une docilité aimable, comme un ami de la maison qui comprend à demi-mot ce qu'on attend de lui. Le secrétaire fit mine de vouloir s'éterniser, mais Marie Nikolaevna le congédia sans cérémonie. « Allez retrouver votre Altesse, » lui dit-elle. « Que faites-vous chez une plébéienne comme moi ?» À cette époque, vivait à Wiesbaden une principessa di Monaco, qui ressemblait à s'y méprendre à une demi-mondaine de mauvais aloi. « Mais, madame, toutes les princesses au monde !» commença le malheureux secrétaire. Cependant, Maria Nikolaevna se montra impitoyable, et le secrétaire, malgré sa raie, fut obligé de partir. Madame Polossov était habillée ce jour-là « à son avantage », comme disaient nos aïeuls. Elle portait une robe de soie rose, glacée, avec des manches à la fontange, et un gros diamant à chaque oreille. Ses yeux brillaient à l'égal de ses diamants. Elle était de très bonne humeur et en verve. À table, Maria Nikolaevna plaça Sanine à côté d'elle et lui parla de Paris, où elle pensait se rendre dans quelques jours, et déclara qu'elle en avait assez des Allemands, qu'ils sont bêtes quand ils veulent faire de l'esprit, et spirituels hors de propos quand ils disent des bêtises. Puis tout à coup, à brûle-pourpoint, elle demanda à son voisin « Est-il vrai que vous vous êtes battu avec l'officier que vous avez rencontré ici il y a un instant ?»«
Comment le savez-vous ? » s'écria Sanine, pris au dépourvu.
« Tout finit par se savoir, Dmitri Pavlovitch.
Je sais aussi que vous aviez raison, mille fois raison.
Je sais que vous vous êtes conduit en preux-chevalier.
Dites-moi, la dame en question était votre fiancée ?»
Sanine fronça légèrement les sourcils.
« Ne me répondez pas, ne me répondez pas !» ajouta-t-elle vivement.
« Je vois que cela vous est désagréable. Pardonnez-moi, je ne demande rien, ne vous fâchez pas !»
À ce moment, Polossov entra de la chambre voisine, un journal à la main.
« Qu'est-ce qui t'amène ? Est-ce que le dîner est servi ?» demanda Madame Polossov.
« On va servir le dîner. Sais-tu quelles nouvelles je trouve dans l'abbaye du Nord ? Le prince Kromoboy est mort. »
Maria Nikolaevna leva la tête.
Ah, que le Seigneur donne le repos à son âme!
Puis, se tournant vers Sanine, elle ajouta: toutes les années, au mois de février, le jour anniversaire de ma naissance, ce prince ornait mon appartement de camélias.
Cependant, ce n'est pas la peine de rester à Saint-Pétersbourg tout l'hiver en prévision de cette surprise.
« Il devait avoir au moins 70 ans, » demanda-t-elle à son mari.
« Oh oui, mais quelle funéraille ! Toute la cour ! Le journal publie aussi des vers du prince Krovichkin à la mémoire du prince Gromoboy. »«
Tant mieux.
Veux-tu que je te les lise ?
Non, je n'y tiens pas. Allons dîner. Le vivant pense à la vie. Votre main, Dmitri Pavlovitch. »
Le dîner était irréprochable, comme la veille, et fut plus animé. Maria Nikolaevna savait raconter, don rare chez une femme, et surtout chez une femme russe. Elle ne choisissait pas ses expressions, et surtout n'épargnait pas ses compatriotes. Sanine éclata de rire plus d'une fois à ces mots, à l'emporte-pièce qui frappait toujours juste. Maria Nikolaevna détestait par-dessus tout les dévots, les phraseurs et les menteurs, et elle en trouvait partout. On aurait dit qu'elle se glorifiait d'être née dans un milieu bas. Elle racontait des anecdotes assez étranges sur ses parents quand elle était enfant. Sanine comprit que Maria Nikolaevna avait souffert dans sa vie plus que la plupart des jeunes femmes de son âge. Quant à Polossov, il mangeait avec réflexion, buvait attentivement, et de loin en loin seulement levait sur sa femme et Sanine ses petits yeux blanchâtres qui paraissaient aveugles, mais qui en réalité voyaient très bien.
« Tu es bien sage, » dit Anna Nikolaevna tout à coup à son mari. « Tu t'es si bien acquitté de toutes mes commissions à Francfort. Je t'embrasserai sur ton cher front. Mais tu n'aimes pas cela. »
« Non, je n'y tiens pas, » répondit Polossov en coupant l'ananas avec un couteau d'argent.
Maria Nikolaevna le regarda et frappa sur la table avec ses doigts.
« Eh bien, notre pari, le tiens-tu ? »
« Oui, je le tiens. »
« Bien, mais tu le perdras. »
Polossov poussa son menton en avant.
« Eh bien, cette fois, quelles que soient tes ressources, Maria Nikolaevna, « je crois que c'est toi qui perdras. »«
Un pari ? Sur quoi ? Est-ce un secret ?» demanda Sanine.
« Non, je ne peux pas vous en parler maintenant. Plus tard !» répondit Maria Nikolaevna, et elle rit.
7 heures sonnèrent. Le garçon vint annoncer que la voiture était avancée. Polossov reconduisit sa femme jusqu'à la porte, puis retourna aussitôt dans son fauteuil.
« N'oublie pas la lettre au régisseur !»
lui cria Madame Polossov de l'antichambre.
« Ne crains rien, j'écrirai, je suis un homme ponctuel. »